Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer le premier atelier, le premier séminaire qui est sur les codes culturels. Mais avant, nous faisons toujours un devoir de prier Dieu, de remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Alors, je vous invite à incliner votre tête avec moi dans une prière. Seigneur éternel, c'est un privilège de travailler pour toi. Le privilège de te connaître, le privilège de t'avoir dans nos vies. Tu nous as appelés aujourd'hui à partager ensemble des méthodes, des moyens pour être plus efficaces dans notre mission pour toi en tant qu'ambassadeur. Tu as inspiré ces jeunes, tu les as motivés dans cette initiative. Que tout soit fait pour ta volonté. Et non pour la nôtre. Que Seigneur, toute motivation, tout mobile vienne directement de toi. Que nous puissions nous effacer pour te laisser paraître. Et que les gens qui nous voient puissent discerner ta présence dans nos vies. Et que ce soit ça qui les attire. Donne-nous ta paix et ta grâce. Et pardonne nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Bon, c'est Benjamin qui était censé faire la présentation du groupe. Il devait venir hier soir, mais il m'a appelé un peu vers 7 heures pour me dire que son garçon qui jouait avec un ciseau s'est fait des dessins dans les cheveux. Alors, vous savez, les jeunes. Donc, il a dû l'amener chez le coiffeur pour égaliser les cheveux. Donc, c'est pour ça. Il pensait le faire très tôt ce matin pour pouvoir revenir ici, mais malheureusement, donc il est encore en retard. Bon, avant de commencer le séminaire, donc c'est important que je vous dise quelques mots sur le groupe Missionnaires d'ici. Donc, Missionnaires d'ici, c'est un groupe de professionnels adventistes qui ont comme vous la mission de partager l'Évangile. Et nous, ce qu'on avait ciblé comme problématique, c'est que le Québec est extrêmement grand, extrêmement vaste. Et notre Église a fait des efforts pour couvrir le Québec. On sait qu'il y en a beaucoup à faire encore. Il y a des initiatives comme le projet d'Île au Québec, où on envoie Carmen Allard, Patrick Dupuis dans certains endroits. Il y a certains points où les écrits vont. Mais on sait que pour atteindre le Québec dans son ensemble, il va falloir des initiatives complémentaires. Et c'est là, on s'était dit, il y a quand même beaucoup d'immigrants dans la région de Montréal, beaucoup de non, de Québécois, de néo-Québécois qui ne sont pas des Québécois de souche, qui ont les aides de l'évangélisation, mais il faut l'accepter quand on arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas tous les codes de ce pays-là. Donc, pour être efficace, il faut que ces gens-là soient exposés au code culturel du pays de façon à ce que leur témoignage soit plus efficace. Donc, j'en ai parlé à un groupe de gens d'abord dans mon église, et puis donc l'idée a intéressé quelques-uns. Au ministère des Hommes, dans le cadre d'une rencontre à Wadon, j'avais lancé l'idée. Et Pasteur Valiamé l'a appuyé, et puis Benjamin aussi l'a appuyé, et puis l'idée a fait son chemin. Et puis maintenant, on est un groupe d'environ 11-12 personnes qui montent ensemble des ateliers pour aider ceux qui veulent évangéliser à mieux connaître la culture québécoise. Donc les ateliers, pour l'instant, on a trois ateliers. Le premier atelier, c'est sur les codes culturels de la société d'accueil. C'est comme les clés, disons, pour comprendre les non-dits, parce que généralement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal, et les choses importantes surtout se passent là. Donc, c'est aider ceux qui ne sont pas au courant de ces codes-là à en prendre connaissance. Et puis, un deuxième atelier, un deuxième séminaire, c'est relations humaines et évangélisation. Ça, c'est Lina qui va vous partager ça. C'est comment disons au niveau de l'attitude, disons mettre l'autre personne confortable, mieux réceptive à la, disons, à notre action ou bien à l'action du Saint-Esprit. Et le troisième atelier qui est sur l'évangélisation en tant que tel, donc c'est vraiment des conseils pratiques pour ceux qui vont aller évangéliser sur le terrain. Donc c'est Guy Lacourse qui va le présenter au nom de Yvain Alexis. C'est Yvain qui a fait le texte, c'est Guy Lacourse.
Il faudrait juste préciser que c'est normalement notre frère Yvain Alexis.
C'est ça.
Qui devrait présenter, c'est lui qui a tout préparé. Je vais le remplacer à pied levé.
C'est ça.
Donc je vais me servir vraiment de ce qu'il a fait et je vais vous le présenter du mieux possible.
C'est ça. Bon, alors, mais en parlant du loup, on voit sa queue. Donc, je voulais juste introduire le groupe. Et puis, Benjamin, tu arrives au bon moment, à la seconde près. Oui, c'est ça. On a parlé de la coupe de cheveux. Donc, je vais passer la parole à Benjamin en attendant qu'il s'installe. Donc, les membres du groupe que vous avez ici, bon, il y a moi-même, il y a Guy Lacourse qui vient de parler, il y a Lynn Giard, il y a Benjamin, et puis je vois Conrad et Janine qui sont en train d'arriver. Donc, les autres personnes qui vont arriver, on va vous les présenter au fur et à mesure, parce que ça ne vaut pas la peine de dire un nom que vous n'associez pas. Ça, c'est notre ami Conrad Boisvert qui vient d'arriver. Alors, Benjamin, tu étais censé présenter quelque chose d'ensemble sur l'orientation, etc. Alors, je te cède la parole.
OK. J'ai un petit livre avec moi que j'ai emmené et puis que j'ai découvert récemment. Je l'avais dans la bibliothèque depuis un certain temps. Et j'y ai puisé un concept très simple que je pense qu'il pourrait nous être utile en mettant la table plus ou moins dans ce que nous sommes impliqués en tant que groupe et probablement dans ce que vous voulez faire également dans ce séminaire sur le porte-à-porte. L'évidence est là, on vient chacun de certains endroits, nos origines sont totalement différentes. Et j'ai découvert un concept très simple que quelqu'un a développé en ce qui concerne la personne de Jésus lui-même. Et je pense que la façon dont ceci a été exploité pourrait nous être très utile. C'est le fait que Jésus est venu sur cette terre pour... Il est parti d'ailleurs et est venu sur cette terre. OK? Et en tant que quelqu'un qui est venu d'ailleurs, il a pris une nature qui n'était pas sa nature à lui. Et cette nature-là que Jésus a prise, c'est ce qu'on appelle ordinairement dans le jargon toute la notion de l'incarnation en tant que telle. Il est devenu chair comme nous tous. Et partant de là, il s'est placé dans une position où il y a deux points qu'on aimerait soulever en ce qui concerne le cheminement de Jésus. Numéro un, quand il est venu sur cette terre, il est venu en tant qu'enfant. Un enfant naturellement, c'est l'individu qui est dépourvu de moyens, en général, qui est supposé dépendre des autres, qui est supposé apprendre, et pratiquement tout apprendre. Il y a des gens qui expliquent très bien que quand on regarde toutes les espèces qui se retrouvent, l'espèce humaine semble être celle qui prend le plus de temps à pouvoir être indépendante et grandir, par le fait que le cheminement entre l'enfance et l'âge adulte, où on peut se pourvoir à tous ses besoins en général, ce cheminement-là est relativement plus long qu'un animal, par exemple, qui naît et puis qui saute directement sur ses pattes, qui peut arriver à courir et puis qui peut arriver à tout faire. Jésus est venu aussi, lui, en tant qu'enfant. C'est-à-dire qu'il avait pratiquement tout à apprendre. Il devait tout recevoir et dépendre beaucoup des autres. Premier concept. Deuxième concept, en ce qui concerne l'incarnation dans toute cette dynamique de relations humaines, c'est le fait que Jésus a passé une trentaine d'années à apprendre avant de pouvoir commencer son ministère. Et je pense que ces deux dimensions-là peuvent nous dire quelque chose dans la dynamique de ce que nous, vous faites et ce que nous voulons faire nous aussi de notre côté. C'est le fait que Jésus étant venu comme quelqu'un qui était un enfant, dépendait du milieu dans lequel il vivait. Il devait tout recevoir. Il devait s'imbiber de cette culture dans laquelle il se retrouve. Et ceci vaut à la fois par le fait qu'il soit un enfant et à la fois par le fait qu'il a dû passer une trentaine d'années avant de commencer son ministère. C'est comme pour dire que pendant 30 ans, Jésus n'a fait autre chose que d'apprendre ce qui se passait autour de lui. Voir comment tout le contexte dans lequel il s'est retrouvé. Et partant de là, je veux très rapidement passer sur ce qu'on appelle toute la notion de culture en général. Chacun d'entre nous, on a quelque chose qui nous caractérise. On voit les choses d'une certaine façon. Dans certains séminaires qu'on a eu avec des jeunes, on leur a expliqué le concept de paradigme en général. C'est les lunettes à partir desquelles on voit ce qui nous entoure. Si mes lunettes sont roses, je vois tout en rose. Si mes lunettes sont bleues, je vais les voir tout en bleu. Et ceci, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de l'endroit où je me retrouve. Et souvent, moi, pour soulever des questions, je me dis que je suis né en Haïti, dans un pays de tradition chrétienne. Mon père était impliqué dans l'œuvre en tant que professeur, en tant que pasteur pendant un certain temps. Tout pour dire que ceci a fait de moi plus ou moins ce que je suis. Si j'étais né au Liban, je serais peut-être autre chose. Ça, je ne le sais pas. OK? Alors, partant de là, il y a d'autres questions qui peuvent être soulevées. On ne va pas entrer dans ces questions-là du tout ce matin. Mais tout ceci, c'est pour expliquer une chose. C'est pour expliquer le fait que Jésus, en venant, était un enfant. Il devait dépendre des autres pour recevoir. Deuxièmement, il a passé un certain laps de temps pour pouvoir s'imbiber de la culture dans laquelle il se retrouve, que ce soit au niveau contexte, okay? Que ce soit au niveau, comment je dirais ça d'une façon très simple. Bref, je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Qu'est-ce que ça nous dit, ces deux notions-là? Ça nous dit purement et simplement que si nous qui venons d'ailleurs, nous voulons aider d'autres qui se retrouvent dans un autre milieu, il va falloir que nous nous inspirions de ces mots, deux éléments-là qui caractérisent tout ce qui s'appelle l'incarnation. C'est le fait que nous devons avoir l'esprit d'un enfant qui est prêt à être ouvert et à apprendre de ce qui nous entoure. Ça, c'est numéro un. Et numéro deux, nous devons être aussi prêts à nous identifier avec ceux que nous prétendons vouloir aider. Nous identifier, ça veut dire connaître leur langage, connaître ce qui les caractérise sur une base personnelle, connaître également ce qui nous permet de voir où est-ce qu'ils se situent et comment est-ce qu'ils réagissent. Tout pour dire, c'est comme presque emprunter leurs lunettes pour pouvoir voir de la façon dont ils voient. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous pouvons prétendre pouvoir aider. Si je prétends vouloir aider, c'est parce que je prétends avoir quelque chose. Mais il ne faut pas que je sois trop prétentieux non plus en prétendant avoir quelque chose. Ça fait que j'ai beaucoup à apprendre de ceux qui me retrouvent, qui se retrouvent autour de moi, et j'ai beaucoup aussi à apprendre de leur façon d'être en particulier. Un peu plus tard, on va voir au cours de la journée certains autres aspects qui peuvent nous être très importants. Mais pour commencer un peu tout ça, j'ai voulu simplement mettre sur la table ces deux éléments-là. Je pense que nous voulons, nous devrions garder en tête. L'auteur dans ce petit bouquin, il prétend que Jésus était une personne à 200%, en ce sens qu'il était à la fois homme à 100% et qu'il était à la fois Dieu à 100%. Et l'appel qui nous est plus ou moins fait à ce niveau-là, c'est le questionnement, c'est de savoir, nous, à défaut d'être des hommes ou des individus à 100%, peut-être que nous devrions l'être à 75%, pas 75, à 150%, en ce sens que être capable de nous dépouiller de certaines choses qui nous caractérisent, nous, pour être capable de faire ce cheminement-là vers l'autre et aller chercher certaines choses de l'autre qui pourra nous permettre de cheminer et faire le pont et être capable d'aider à ce niveau-là. C'est très simple, très conceptuel ce que j'avance, mais je voudrais simplement mettre ceci sur la table. Et si on pourrait simplement garder tout ceci en tête dans tout ce qu'on va voir durant la journée, je pense que ceci pourrait nous être utile. Le verset qui dit que nous devrions être ou bien faire comme Jésus nous demande de l'être et faire comme lui, devrait nous interpeller, je pense, à ce niveau-là, pour dire que si lui a été capable de se dépouiller pour aider les autres, ceci nous appelle, nous aussi, à faire exactement la même chose, à savoir que nous venons d'ailleurs, nos références peuvent être différentes, et en parlant de venir d'ailleurs, je ne parle pas simplement de l'origine de notre pays d'origine ou de notre descendance. Je parle aussi du fait qu'on peut venir totalement d'ailleurs parce qu'on comprend les choses différemment, on les voit différemment, on a autre chose à présenter et on prétend vouloir donner la main à ceux qui se retrouvent ailleurs. Ça fait que si nous gardons ces deux concepts-là en tête, je pense que ceci va pouvoir être comme un fil conducteur sur lequel on pourra revenir au fur et à mesure durant la journée, en particulier en commençant avec la présentation que Carole aura à vous faire ce matin. Je vais vous laisser sur ça. S'il le faut, on pourra en reparler un tout petit peu.
Alors, nous allons poursuivre avec les codes culturels cette fois-ci. Donc, Benjamin vous a bien introduit, dans le sens que quand on veut aller vers les autres, il faut être assez humble, apprendre, savoir qu'il faut apprendre de ces gens-là d'abord. Ensuite, si on veut leur apporter quelque chose. Et les codes culturels nous emmènent directement vers là. Qu'est-ce qu'on a à apprendre du milieu dans lequel on veut travailler? Qu'est-ce qu'on a à apprendre des gens qu'on veut, disons, évangéliser? Donc, je vais d'abord vous parler de la problématique globale d'intégration, parce que c'est de ça qu'il s'agit, s'intégrer dans une culture pour pouvoir lui apporter quelque chose. Vous parlez de l'importance des codes culturels, des objectifs, disons, de nos objectifs en vous présentant ce séminaire sur les codes culturels, les tabous, les codes sensibles, de suite une période de questions. Donc, on avait pensé à un format, d'ailleurs, présentation, ensuite un panel, mais étant donné les circonstances, je vais prendre les questions au fur et à mesure. Okay. En octobre 2006, j'étais invité par la ministre de Migration et des Communautés culturelles à présenter un mémoire à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, ce mémoire-là s'intitulait, disons, « Quelles sont les barrières à l'intégration des immigrants au Québec ?» Alors, j'avais couvert 4 points. C'était les codes culturels, le problème de réseau, que les immigrants n'ont pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met sous le dos du racisme qui ne l'est pas tout simplement parce que c'est une société qui fonctionne en réseau essentiellement. Donc, quand on ne comprend pas l'importance, on passe à côté de bien des opportunités. Et bien sûr, il y a le racisme. Et puis, bon, ensuite, en dernier lieu, il y a le corporatisme, surtout bon, pour les immigrants qui ont eu leur diplôme en dehors du Québec. Ce n'est pas évident de faire accepter les papiers, etc. Donc, pour ceux qui veulent aller, bon, j'ai inclus c'est sur le site web de l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, pour commencer, on va faire un premier constat qui va vous être utile pour votre intégration au Québec et en même temps pour tout ce qui s'appelle entrer en contact, évangéliser si possible. On reste avec le constat. Oui, c'est ça, retour. Donc, dans le constat, le premier contact avec le Québécois de souche est plutôt facile. Ça, tout le monde le reconnaît, le premier contact est... Il y a des gens peut-être qui peuvent penser autrement, c'est parce qu'ils ont brûlé les étapes. C'est-à-dire aller dans une relation d'amitié alors que la personne veut seulement vous dire bonjour, comment ça va? Donc si on ne comprend pas ça, et vu qu'on saute à l'autre étape, à ce moment-là, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Et je peux vous dire très facilement, c'est-à-dire quand on connaît bien la culture québécoise, le premier contact est facile. Vous allez voir dans la suite de cet atelier, J'ai un certain nombre de dessins. Tout cela, je les ai eus gratuitement de quelqu'un que j'ai connu, bon, dont j'ai fait la connaissance il y a à peine quelques semaines. Tout a commencé, comme je me suis dit, comment je vais présenter ces ateliers? Alors, il faut illustrer les situations, parce que c'est des cas, c'est pas un séminaire de théologie ou bien quelque chose, c'est la première fois qu'on le fait, et puis il n'y a personne qui l'a fait déjà. Je dis, il faut des illustrations. Alors, je suis allé faire de l'essence, et puis j'ai vu un jeune homme, il avait peut-être 18-19 ans, et puis entre deux clients, il dessinait quelque chose. Je dis, est-ce que je peux voir ce que tu dessines? Il me l'a montré. Je lui ai dit, tu dessines vraiment bien. Mais tu fais ça entre deux clients. Il m'a dit, oui, mais quand j'ai le temps de faire ça à tête reposée, donc je fais encore de meilleurs dessins. Puis j'ai retenu ça. Puis là, la prochaine fois, j'étais le voir. Il m'a dit, écoute, j'ai un groupe de professionnels avec moi. Et puis, on monte des ateliers pour aider les immigrants à bien s'intégrer à la culture québécoise. Il m'a dit, c'est intéressant comme idée. Moi, j'ai grandi avec des amis haïtiens, donc c'est vraiment chouette. On joue au soccer, on fait toutes sortes de choses ensemble. Mais par contre, cette idée de monter des ateliers pour aider les immigrants, donc je n'ai jamais entendu parler. Et puis, bon, je trouve ça intéressant. Je lui dis, mais si tu veux nous aider, est-ce que, comme tu dessines bien, est-ce que tu pourrais illustrer les thèmes pour nous? Alors, je lui ai apporté quelques thèmes. Je lui ai dit, bon, voilà, si je veux parler de le Québécois dans toutes les situations, pour que l'image puisse parler. Alors, je lui ai donné des thèmes. Il m'a dit, je vais essayer avec ça. Je vais te les envoyer par Internet. Donc, si ça te convient, on continue. Et puis, ça s'est fait comme ça. Donc, jusqu'à hier soir, il devait m'envoyer les derniers. Donc, on est parti avant que je puisse recevoir. Mais la majorité, disons, des esquisses font partie de la présentation. Tout ça pour montrer, c'est quelqu'un que j'ai rencontré tout simplement en allant faire de l'essence. Donc, premier contact avec les Québécois, il faut être clair là-dessus, c'est facile. Mais si on veut aller trop vite, parce que en tant qu'Haïtien, surtout, quand on rencontre quelqu'un, même on fait la connaissance aujourd'hui, ça peut devenir une amitié de 5 secondes après, là. Ça arrive souvent entre Haïtiens. Mais après, on peut avoir des mauvaises surprises après aussi. Des fois, c'est des bonnes surprises. Donc, si on s'attend à la même chose, donc on brûle les étapes et puis à ce moment-là, on perd le tout. Donc, d'où l'importance des codes culturels, de les comprendre. Et ici, je vais l'illustrer avec une expérience que j'ai vécue personnellement. Tout ce que je vais dire ici, là, c'est des choses que j'ai vécues. Parce que, bon, je n'ai pas étudié en sociologie pour faire des séminaires sur des aspects théoriques de la sociologie. Je ne sais rien du tout en sociologie. Je commence à avoir un peu en psychologie, là, avec des cours que Lina nous donne à l'église, là. Pas des cours, des ateliers. Donc, mon domaine, je suis scientifique. Donc, ce domaine-là, ce n'est pas le mien. Donc, je parle de mon expérience, de mon vécu. OK? Donc, je n'ai pas de théorie en arrière de ça. Le regard haïtien, alors qu'est-ce que c'est? J'ai travaillé en 93 dans un centre de recherche au Nouveau-Brunswick. Ben, j'étais directeur scientifique et puis j'avais un groupe de gens avec moi, là, de différentes nationalités. Il y avait un Sénégalais, il y avait un Russe, il y avait. Il y avait un Américain, il y avait des Québécois, il y avait des Acadiens. On était vraiment multinational. Puis je remarquais, il y a une de mes employées qui avait beaucoup de difficultés avec moi. Moi, j'ai pas de difficultés avec elle, elle avait beaucoup de difficultés avec moi. J'ai jamais compris pourquoi. Et puis un jour, je l'ai appelée dans mon bureau, je lui ai dit, écoute, pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas entre toi et moi? J'ai l'impression de t'avoir bien traité. Tu habites à Moncton, je te donne la journée du vendredi pour que tu puisses aller à Moncton. Je dis, tu ne peux pas demander mieux que ça. Et puis, tu travailles sur des bons projets. Elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Elle m'a dit, écoute, je ne peux pas te faire confiance parce que quand tu me parles, tu ne me regardes pas dans les yeux. J'ai l'impression que. Je pense qu'ils se sont trompés. Okay. Alors, j'ai dit, mais Christine, pourquoi j'aurais utiliser des méthodes en passant par la porte d'à côté si je veux quelque chose de toi. Je suis ton directeur. Si je veux te changer de projet, je peux te changer de projet. Si je veux mettre fin à ton contrat, je peux mettre fin à ton contrat. Donc, pourquoi j'utilisais l'hypocrisie? Il m'a dit, je comprends tout ça, mais ça ne marche pas dans ma tête. Quand tu me parles, tu ne me regardes pas. Et ma femme me l'a toujours dit. Écoute, Harold, regarde-moi dans les yeux. Jusqu'à présent, Sabrina, ma fille, peut un peu en témoigner. Je peux parler à quelqu'un comme ça, là, et puis mon visage est ici. Puis souvent, dans les salles de cours, les professeurs disent, voulez-vous poser une question? Et pourtant, je n'avais rien à voir avec ma main levée en direction du prof, là. Je parle à quelqu'un ici, là. Donc, c'est un trait, disons, de culture que je traîne encore. Et je remercie, on a une sœur dans l'église, Madame Guillaume. Régulièrement, chaque sabbat, quand elle vient me saluer, elle me regarde comme ça. Regarde-moi, Harold. Regarde-moi, Harold. C'est comme un exercice, là, qu'elle me fait faire, là. Régulièrement, à chaque fois, elle me voit. Regarde-moi, Harold. Comme ça, là. Donc, pour me dire, là, non, tu es au Québec, tu dois regarder les gens dans les yeux. Et donc, maintenant, ça, dans ce cas-là, ce n'était pas dramatique parce que j'étais le patron. Maintenant, imaginez, inverser la situation. Que je n'étais pas le patron, mais j'étais l'employé. Ou bien que je voulais être embauché pour entrer dans ce centre-là. Et que cette dame-là se trouvait dans la position de patronne. Pensez-vous que j'aurais une entrevue? Si j'étais passé en entrevue, je n'aurais jamais eu le poste. Parce que dans le contexte québécois, elle était québécoise, quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, qui ne le regarde pas dans les yeux, c'est quelqu'un qui a un agenda caché, quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui a un jeu en arrière. Et tandis que dans notre culture à nous, moi, dans Adam Marie où j'étais élevé, tu regardes quelqu'un uniquement quand tu veux le confronter. Oui, c'est vrai. On a dit, cet enfant-là est impertinent, là, il regarde droit dans les yeux. Mais les enfants qui font ça, les jeunes qui regardent comme ça, eh bien, ils sont très mal vus. Et Sabrina, tu connais le cas de Jodelet qui a démarré, disons, une œuvre en Haïti parce qu'il est tombé sur une petite fille qui était abandonnée de sa famille. Personne ne voulait d'elle. La petite fille avait seulement 7 ans parce qu'elle regardait les adultes droit dans les yeux. Puis les gens disaient, baisse tes yeux. Non, elle regarde encore plus dans les yeux. Et pour la culture là-bas, c'est une fille qui n'a pas d'avenir, là, abandonnée. Et puis Jodelet et sa femme l'ont ramassée. Alors maintenant, cette petite fille-là est première de classe de partout. Et puis l'expérience est suffisamment bonne. Ils ont fait une école pour dire que ce que ça peut faire, disons, un code culturel quand tu ne le connais pas. Ce que ça veut dire regarder quelqu'un dans les yeux, ne pas regarder. Et puis si tu vas en Haïti, tu vas regarder quelqu'un dans les yeux comme ça pour lui parler, la personne pense que tu veux le confronter. Alors que ici, c'est un signe d'honnêteté, donc j'ai de l'égard pour toi. Ok, on avance. Bon, ça c'est la personne que vous voyez là, c'est quelqu'un de mon église à Saint-Hubert, c'est Josiane Martin, la fille de Daniel Martin. Josiane est allée faire un voyage en Guinée. Donc, je pensais que c'était Guinée-Conakry. Donc, s'il n'y a pas de guerre en Guinée-Conakry, donc ça va être l'autre Guinée, là où il y a la guerre. Là. Parce que sa mission a été raccourcie à cause de la guerre. Donc, Joanne est allée en Guinée pour une mission. Et elle est infirmière, c'est son ministère. Là, c'est une journée de travail typique de Josiane. Quand Josiane est revenue, elle a présenté quelque chose à l'église. Mais tout le monde a remarqué quelque chose. Josiane était complètement une autre personne. Elle avait changé. Une petite fille qui, disons, qui commençait la vie doucement, infirmière, vous savez ce que c'est, infirmière ici, là, les gens ont été casés du travail, etc. Les 12 heures en file, etc. Bon, vraiment la petite vie, minable. Et puis, après cette expérience-là, Josiane est devenue une autre personne. Alors, on lui a demandé, Josiane, mais qu'est-ce qui t'a changé comme ça? Elle m'a dit, et pourtant, elle a été dans un endroit où il y avait la guerre. Elle a dû raccourcir son séjour à cause de la guerre. Mais c'est que son expérience a été une réussite sur le plan de son ministère. Elle a réalisé que Dieu voulait faire d'elle une missionnaire avec, disons, sa connaissance en nursing. Et qu'est-ce qui a facilité, disons, le succès de Josiane? C'est que Josiane a été hébergée chez une famille de Guinée. Et la famille a fait une transformation extrême, là. Ce que vous voyez à la télévision, là, c'est eux qui ont commencé ça. OK? Non. Alors, regardez, ça, c'est Josiane. Et vraiment, quand elle était là-bas en Guinée, elle vivait comme ça. Elle vivait exactement comme les gens là-bas. La famille lui a dit, si tu veux que les gens t'acceptent, que les gens viennent se faire soigner par toi, que tu puisses faire ton séjour comme il faut, comme tu le veux, alors voilà comment tu dois être. Et la famille a pris Josiane, au niveau des habillements, au niveau de tout, là. Alors, ils en ont fait une transformation extrême. Donc, l'expérience a été extrêmement réussie. Donc, pour nous, à Missionnaires d'ici, au fait, notre objectif, notre idéal, serait que tous les immigrants, tous les néo-québécois qui veulent évangéliser puissent avoir une transformation extrême comme ça, là. Comme Paul dit, je me fais juif avec les juifs, grec avec les grecs. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Donc, prenons un haïtien, une haïtienne, puis pour le mettre en québécois, quelle transformation il faut faire? Donc, ça, c'est l'extérieur, là. Mais l'extérieur, ça a été le résultat de ce qui s'est passé dans sa tête. Ça, elle s'est prêtée volontairement à ça, là. Elle en est très fière. Elle veut revivre cette expérience-là le plus vite encore. Donc, c'est ça l'objectif des missionnaires d'ici. Être capable, un jour, de permettre aux immigrants qui veulent évangéliser, de suivre une expérience comme ça. C'est-à-dire d'arriver à un point où ils se disent, je suis juif avec les juifs, grec avec les grecs, on est québécois avec les québécois. Pour l'instant, on y va à petits pas, comme l'histoire le dit. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Donc, si on n'arrive pas à faire ça en un jour, on ne va pas se culpabiliser, mais on va commencer par des ateliers comme ça, vous exposer à cela. Et puis, vous allez répondre la nouvelle. Au début, bon, même si vous étiez, devriez être 50, là, mais les 6 ou les 7, les 8 ou les 10 que vous êtes, quand vous retournez à Montréal, vous rassemblez votre monde et puis vous communiquez ça. Donc, j'avais envoyé ça à Karine. C'est ça. Donc, je vous laisse une aide-mémoire. Comme ça, tout ce que je vais dire là, donc c'est que bon, c'est enregistré aussi. Mais par contre, vous allez avoir, disons, les références clés. Vous allez les avoir, même si vous oubliez 80%, au moins les références, vous allez les avoir. OK? Karine, on avance. Bon, maintenant, on a divisé, disons, ces codes culturels en deux catégories. Il y a d'abord ce qu'on appelle les tabous, et ensuite il y a les codes sensibles. Il y a un petit peu, c'est juste une question d'intensité là-dedans. Les tabous, qu'est-ce que c'est? Ce sont des thèmes explosifs dont on ne veut pas parler, mais qui pourtant définissent l'inconscient d'une collectivité. C'est-à-dire, quand on dit que quelque chose est tabou quelque part, mais c'est ça qui définit la collectivité. C'est parce que ça, c'est tellement important, c'est ça qui constitue la trame de cette société-là. C'est le fondement. Quand tu y touches, la société vacille. Donc, il ne faut pas en parler parce que c'est trop sensible. Et pourtant, pour rejoindre les gens, il faut comprendre ça. Parce que c'est ça qui les définit. Alors, je vais vous donner un exemple avant de revenir au cas du Québec. J'étais au Sénégal dans une mission de l'ACDI en 2003. Non, la dernière fois que j'étais, c'est en 2005, en 2006. Parce que je voyage beaucoup, là, je perds la notion là, des nombreux voyages que j'ai faits. Puis j'étais allé former, disons, un groupe de gens. C'était dans un centre de recherche, etc., pour les mettre à jour sur un certain référentiel dans la transformation alimentaire. Et puis il y a un de ces gars-là, le responsable du groupe, il m'a beaucoup apprécié, etc. Il m'a invité chez lui. Il m'a tellement apprécié là qu'il avait une sœur qui voulait me donner un cadeau là quand je retourne au Canada. J'ai dit, ouais, il faudrait que j'appelle ma femme d'abord là pour lui dire que j'ai un cadeau pour elle. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle aurait apprécié ce cadeau-là. Mais dans leur mentalité, il m'apprécie. J'ai dit, Carole, il y a une de mes sœurs là. Tu peux l'amener. Aussi simple que ça. Je suis marié, c'est pas grave. Tu l'amènes, et vite. C'est pas grave. Moi, j'entends ça, ben, je souris, je dis non. Ben, j'apprécie que tu m'apprécies, mais... Non, ce cadeau-là, je ne peux pas le vendre. Il va rester au Sénégal. Et puis, J'arrive chez lui, il me présente son père. Son père, c'est un prof d'université. Il est au Sénégal. Il est, je pense, il maîtrise l'arabe mieux que les arabes. Et puis, il s'en va partout dans les universités. Il fait des grandes conférences sur les droits de l'homme, l'islam, etc. L'islam et la démocratie. Oh, de belles affaires. Mais je viens, je vois beaucoup de monde qui tourne dans la maison. Je dis, tout ça peut pas être ses enfants. Alors, j'ai demandé à Omar, je lui ai dit, combien d'enfants il a? Il dit, écoute, Harold, c'est une question qu'on ne pose pas dans cette maison. Oh, c'est une question qu'on ne pose pas dans cette maison. Pourtant, tu es à l'université. Je dis, n'importe qui arrive là, il va compter facilement. Là. Non, mais c'est la question qu'on ne pose pas. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de la société sénégalaise. C'est une cause sensible. Les gars parlent de démocratie, mais ils peuvent prendre une fille, donner un cadeau comme ça. Ils peuvent avoir autant de femmes. C'est négligeable. Ils vont faire des conférences sur la démocratie dans les grands pays, mais la façon dont ils utilisent les femmes et les enfants, il ne faut pas toucher à ça. Parce que ça soulève bien des affaires. Moi, j'étais surpris. J'ai dit, mais pourtant, ton père va faire toutes sortes de conférences dans les universités. Et puis, une question comme ça, il ne faut pas la poser. Il dit, non, ouais, si tu veux rester ici, là, cette question-là, on ne la pose pas. Demander combien d'enfants a mon père ou combien de familles, là, non. On ne pose pas ces questions-là. Donc, c'était le tabou. Et une femme a voulu briser ce tabou-là. Quand je suis arrivé, là, tout le monde était sous les nerfs. On ne parlait rien que de ça. C'est une Sénégalaise qui a vécu en France. Alors, il dit qu'elle disait, bon, elle a fait beaucoup d'argent, elle est revenue au pays, elle disait qu'elle va apporter quelque chose à la culture de son pays. Elle va secouer un petit peu le figuier, là. Ce qu'elle fait, elle s'est entourée d'un tas de gardes du corps, 19 ans, 25 ans, elle a 60 et quelques années. Ce sont tous ces hommes. Elle fait exactement ce que les hommes font. Et puis, personne ne peut la toucher parce que ces gars-là sont bien payés. Et ils ont des gros bazookas. Ce sont des gardes du corps. Donc, elle est intouchable. Elle a de l'argent. Elle a des avocats. Et elle a des gardes du corps. Ah, je te dis, ça a brassé la société sénégalaise. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Donc, ça, c'est un exemple d'un tabou. Maintenant, on va voir les tabous au Québec. Alors, vous allez m'excuser, là, parce que j'écris des choses. J'ai deux paires de lunettes. J'en ai perdu une à la maison. La deuxième, je l'avais ce matin, je l'ai perdue. C'est pas si c'est un code culturel, mais... quand j'ai besoin de lire un texte, merci, Conrad. Quand je ne pourrai pas lire, je prendrai ça, là. Merci. Au Québec... on a dénombré trois tabous. Il y a Dieu. On peut revenir en arrière. Il y a Dieu. Il y a la religion. Il y a la politique. Donc, c'est vraiment des choses qui touchent. C'est le fondement de la société. Ça révolte les gens, mais c'est ça qui les définit. Vous avez suivi la commission Bouchard-Taylor. Vous avez vu. Donc, c'est vraiment les choses qui posent problème, ça, là. On ne veut pas en entendre parler, mais c'est ça qui définit. Je me rappelle, Benjamin m'avait raconté une histoire assez intéressante. Je vais attendre qu'il arrive, là, pour raconter l'histoire. Et pourtant, au Québec, on peut parler de religion, mais pas dans ce qui touche le fondamental des gens. Vous regardez celui-là? Alors, toujours à Élien? Non, cette semaine, je suis bouddhiste et la semaine prochaine, je prévois redevenir athée. Donc, quelqu'un qui peut être bouddhiste, raélien, puis redevenir athée, c'est son choix. Ça ne touche pas aux gens, ça. Que tu sois raélien, là, c'est une... Ben, je vais expliquer en quelques mots, là, parce qu'il y a quand même, à un certain moment, ça a marché, là. C'est un gars qui était en Formule 1. Et puis, à l'époque de la crise du pétrole, donc il a fait faillite. Je lui dis, mais comment je vais faire pour vivre? Et puis, à l'époque, on connaît la biochimie prenait son essor, tout le monde entendait parler, disons, de l'ADN, etc. Il a parti quelque chose là-dessus. il a dit, bon, moi, je vais inventer quelque chose avec ça, là. Les gens vont y croire. Et puis, les gens y ont cru. Au fait, pour vous résumer ça, j'ai pris contact, je voulais comprendre pourquoi les gens croyaient dans quelque chose que je considérais stupide. Puis un jour, quelqu'un m'a expliqué, quelqu'un qui a connu bien Raël et puis le mouvement, il m'a dit, ah ouais, c'est pas si bête que ça, quand tu l'entends. Raël a fait, disons un petit peu, là, il a fait une histoire semblable à ce que Céline Dion vit présentement là. Vous savez que le mari de Céline Dion, Néan Gilles, est infertile à cause de tous ses problèmes de chimio, etc. Mais avant qu'il ait eu la chimio, etc., donc il a prélevé des spermes. Et puis c'est avec ça, là, on peut fertiliser Céline Dion. Ben, le premier a donné René Charles. Mais ces spermes-là sont là. Donc Céline Dion peut commander des enfants n'importe quand. Donc Céline Dion peut avoir un enfant dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et si elle vivait 200 ans, elle peut avoir un autre enfant de 500 ans, 1000 ans. Puis ces enfants-là, est-ce que ce serait le frère de René Charles? Oui, même père, même mère. Eh bien, Raël s'est présenté comme le frère de Jésus. Tout simplement que, le réservoir d'ADN, là, le même stock, là, le même batch d'ADN qu'a fait Jésus, c'est ce que les extraterrestres ont utilisé pour le créer, lui. Sa mère dormait, là, et puis ils ont shooté ça dans le nombril de la maman. Enfin, où ça se passait, là? Bon, c'est les extraterrestres, ils sont capables. Donc, c'était une histoire un peu... C'est une histoire un peu farfelue, mais ça a marché pour des gens. Les gens y ont cru, parce qu'il y a des gens qui croient que la vie vient d'une autre planète, c'est les extraterrestres. Alors, comment les extraterrestres ont amené la vie? Eh bien, avec l'ADN, ils ont un réservoir d'ADN et puis ils shootent ça là comme bon il semble. Donc, ils ont choisi la mère de Raël pour shooter cette affaire-là. Et puis, ça a donné Raël, qui se trouve être le frère de Jésus, parce que conçu avec le même batch d'ADN. Donc, pour nous, ça semble... Ben, on rit de ça. Mais des fois, quand on parle de Jésus, là, les gens ont la même perception. Hein? Ah bon, ils croient qu'un gars qui était monté sur une croix, qui est mort, il est ressuscité. Nous, on y croit et puis on trouve ça logique. Mais pour d'autres personnes, là, la façon dont on a ri l'histoire de Raël, là, ça sonne exactement la même chose. C'est pour ça, pour beaucoup de Québécois, Raël ou chrétien, là, c'est pas si différent, là. C'est pas différent, parce que d'ailleurs, Raël a utilisé les mots de la Bible. Hein. Les extraterrestres, ils appellent des Elohim, là. Les Elohim, c'est le terme qu'on utilise pour Dieu, en araméen, c'est Elohim. Donc, lui, il a mélangé tout ça, là, et puis il a fait une belle sauce. Donc, bouddhistes, etc. Donc, les Québécois sont pris là-dedans, là. C'est pour ça, même si vous voyez quelqu'un qui a une base raélienne, n'allez pas rire. Parce que votre christianisme n'est pas plus logique. OK? Et c'est ça le Québec, là, vivre et laisser vivre. Donc, tant que la religion ne touche pas à la vie de l'autre, pour le changer, le modifier, c'est bon. Mais sauf que quand on parle du christianisme, ça vient changer bien des affaires. Donc, ça fait partie des tabous. Mais cette partie-là ne fait pas du tabou. Vous pouvez dire que vous êtes raélien, que vous vous assoyez en indien. Ça fait pas peur aux Québécois, là. Arriver chez lui, assoyer en indien, là, faire hum, 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 hum. Il n'a pas de problème avec ça, là. Mais Jésus, là, parce que Jésus demande toute la place, et rien d'autre, là. Et puis, il faut que ta vie soit... Oh non, non, non. Ça entre dans les tabous à ce moment-là. Oui, Benjamin, tu m'avais raconté l'histoire de quelqu'un de ton église, là, qui était dans l'autobus. OK? Peux-tu illustrer, là, c'est-à-dire comment quelqu'un qui est de notre culture, qui ne comprend pas ces nuances-là, et puis il arrive, et qu'est-ce qu'il fait dans des situations?
Il faut que ça passe au micro.
Hein? L'histoire?
S'il raconte quelque chose, ça doit passer au micro.
Il doit s'approcher à ce moment-là.
Il va juste s'approcher. Mais veux-tu venir?
C'est le frère de l'église de Westmount. Ça illustre juste une chose, c'est pas seulement une question de culture, simplement, mais la compréhension même qu'on peut avoir d'une seule et même chose, qui peut être très différente et ça fait une différence. Le frère, à la classe de l'école du sabbat, il était en train d'expliquer que cette semaine, il a été persécuté pour Dieu. Et pourquoi? C'est parce qu'il était dans l'autobus, il était en train de chanter à haute voix et de prêcher à haute voix, de réciter des versets de la Bible. Ça faisait peut-être assez de bruit pour que le chauffeur d'autobus intervienne, lui demande de garder le silence, ce qu'il n'a pas voulu faire. Le chauffeur s'est arrêté à un certain moment donné, a dû faire venir la police. La police l'a emmené là au poste. Mais pour lui, il est arrivé à l'église, il était persécuté pour sa foi. Et puis, il était très content de venir samedi matin expliquer tout ça à l'église. Tout ça, c'est pour dire que, hey, il a simplement mal compris quelque chose. Mais pour lui, ça voulait dire pratiquement quelque chose de majeur. Ça illustre pour moi simplement certaines différences qu'on peut arriver à voir, pas seulement à partir de notre origine, mais à partir de la façon dont nous voyons une certaine réalité et dont nous l'interprétons.
Okay, on va continuer maintenant avec les codes sensibles. Le premier point qu'on va présenter dans les codes sensibles, c'est comment on se présente. Si tu veux entendre quelqu'un, tu te présentes. Ça, quand j'ai parlé avec mon jeune artiste, je lui ai dit, trouve-moi une illustration. Ce que vous voyez ici, là, le Québécois, il est à droite. Okay? Il est très confortable. Il a son échelle faite à sa mesure. Ouais, il est très à l'aise, très à droite. Et puis l'autre doit le rejoindre. Exactement sur la même échelle. Il ne fait pas d'effort, ça se pète à sa taille, il est très à l'aise. L'autre arrive, disons, c'est on a un haïtien majorité ici. Il arrive, bon, bardé de diplôme, donc c'est pour ça qu'il est costaud comme ça. Là. Il a étudié le latin, comme moi, j'ai fait 6 ans de latin. Alors, il a étudié le grec des fois. Il a fait quelques années en France. Il a étudié toute l'histoire de l'Antiquité, de l'histoire de César, etc. Il arrive. Il a beaucoup de culture, beaucoup de diplômes, etc. Et puis, des fois, s'il ne comprend pas comment il se présente aux Québécois, il va parler de tous ses diplômes. Il va étaler toute sa culture. Je ne sais pas si vous allez dans nos églises haïtiennes des fois, juste pour présenter à quelqu'un qui va prêcher, là, tu te demandes est-ce que c'est un candidat à la présidence là. Ouais, là, c'est tout le pedigree là. C'est papa. Anglophone, c'est encore pire. Je dis, on déballe. Un Québécois qui a dit, oh, mais c'est quoi l'affaire? On est venu adorer Dieu ou bien celui-là? Non, mais c'est vrai, qui est-on venu adorer? Lequel, Dieu ou celui-là? Mais sauf que dans la culture haïtienne, c'est comme une marque de respect. Et je me souviens à l'église de Moncton, on avait un frère, il était congolais, il a trimé du sein, un gars qui a énormément de foi avec sa femme, là, tu connais, c'est Pierre et Jackie, Sabrina. Alors, il a trimé dur pour avoir son doctorat. Il était en France, il a dû quitter, etc. Ils ont passé par énormément de problèmes. Puis quand ils sont venus au Canada, ils ont commencé à respirer. Il a pu avoir son doctorat. Et puis, pour remercier Dieu de l'avoir fait traverser tout ce chemin, alors il demande au pasteur une place le samedi matin pour aller remercier Dieu. Alors, il s'est habillé exactement quand il allait prendre son diplôme. Costume, et puis tralala, banderole ici, les étoiles, le chapeau, etc. Puis moi, j'ai dit, je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Puis les gens qui sont là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait à faire un show ici? Il ne fait pas de show le samedi matin? Si vous devez aller au Colisée, pas ici. J'attendais les commentaires, etc. Et puis ces gens-là, après, là, les membres de l'église ont mis une grosse distance avec eux. Ils n'ont pas compris pourquoi. Tout simplement, c'était leur foi. Ils ont traversé des difficultés. Puis Dieu les a amenés au bout avant un diplôme. Ils voulaient remercier Dieu. Puis la meilleure façon de remercier Dieu, c'est avec la tenue du diplôme. Mais pour les membres de l'église de Moncton, là, c'était un show qui n'avait pas sa place dans l'église en tant que tel. Depuis lors, là, ils ont été mis à l'écart. Ils n'ont pas compris pourquoi. Puis les gens, quand ils les voient, ils disent c'est des show-off. C'est des gens qui veulent humilier les autres parce que beaucoup des autres n'avaient pas de diplôme. Les gens l'ont interprété comme ça, alors que eux, c'est tout simplement remercier Dieu pour toute la bénédiction. Donc, avec les Québécois, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai illustré, là. D'ailleurs, Donc, personne ne peut m'envoyer des tomates, OK? Parce que là, c'est un jeune Québécois, il discute avec lui et je lui dis, OK. Parce qu'il connaît son milieu, il dit, bon, voilà ce que c'est. Il dit, vous les immigrants, malgré tous vos diplômes, là, organisez-vous pour entrer dans le canevas du Québécois. Même niveau que lui, même langage. Ne parlez pas, n'allez pas sortir des thèmes trop ronflants, là. Des fois, on va dire ça ici, là, il faut un dictionnaire pour le comprendre, celui-là. Quand quelqu'un choisit des mots trop poussés. Donc, ce qui est bien vu, c'est d'utiliser parfois des mots du jargon, là. Pas trop, là, mais il ne faut pas sacrer pour autant. Mais si vous pouvez mettre un ou deux mots québécois de temps en temps, là, pour montrer que... c'est pour ça que de temps en temps, dans mon courriel, là, je parle de « Bonjour la gang », là, des affaires comme ça. Donc, il faut se mettre à son niveau. Et puis ça peut faire du mal à bien des immigrants qui ne le savent pas. Je suis très proche de quelqu'un de notre fédération qui a un haut niveau, il y a un employé, etc. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, Harold, je commence à me rendre compte qu'il y a un malaise entre moi et les Québécois. Écoutant, il était très apprécié, là. Il a dit, les gens m'invitent à parler. Dans la télévision, c'est moi qui demande de vous présenter les Québécois, choses comme ça, parce qu'ils parlent bien, ils sont très structurés, etc. Mais des fois, j'entends dans mon dos, j'ai découvert, quand je tourne le dos là, c'est maudit français. Ça, c'est pas ce que je vous dis là, c'était quelque chose. Tout ça, c'est par rapport à la présentation de soi. C'est pas que lui, il se présente plus haut, mais les mots qu'il utilise, son langage, disons, le choix du vocabulaire, etc., fait qu'il y a un stéréotype contre les Français. Parce que les Français, même si lui, il n'est pas comme ça, mais comme les gens ont ce stéréotype-là, comme les Français qui viennent montrer qu'ils sont meilleurs. Ça rentre là-dedans. Et nous, en tant qu'Haïtiens, on a un petit peu cet héritage français. Parce que notre système d'éducation, il est français, on a hérité bien des choses de la France. Donc, c'est un élément dont il faut faire attention quand on est en contact avec les Québécois. Oui, Janine? Non, vous êtes des Français. Oui, c'est ça. Tu vois, elle a encore cette conception-là colonisée par les Français. Alors que vous êtes Français. Bon, vous étiez. Ah bon, c'est difficile. Là. On va toucher les pieds. Ouais, c'est ça. Là. Je suis en train de mettre les pieds dans les plats là. Oh, oui. Oh, parce que l'identité va venir après. Donc l'idée, c'est il faut pour entrer en contact avec les Québécois et se faire accepter, il faut être capable de faire cette gymnastique-là. Par exemple, moi, dans mon travail que je suis actuellement, j'ai toujours, mon poste est toujours directeur scientifique, mais je me rends compte, je regarde le milieu qui m'entoure, etc. J'utilise uniquement mon titre de directeur scientifique quand je veux signer des documents scientifiques. Autrement, c'est Harold. Et puis là, les gens me mettent vraiment sur un piédestal, là. Parce qu'il y avait un qui était avant moi, là, qui avait un PhD, hein. Il mettait son PhD de partout, là. Ensuite, il mettait d'autres choses après, là. Il y a deux ESS, il y avait les MBA, etc. Là. À la fin, ça ne peut pas entrer sur une carte d'affaires. Et puis, quand j'arrive, les gens me disent, Harold, là, ces Denis-là, ils nous faisaient baver avec ces PhD-là. Est-ce que toi, tu es pareil? Un PhD, toi, là? J'ai dit, j'en suis un. Que veux-tu? C'est avec ça que je vis. Parce que si je n'ai pas ça, vous ne m'auriez pas engagé non plus. Mais sauf que je considère que tout le monde a à peu près le même bagage d'expérience. C'est le profil qui est différent. Je vais faire un petit dessin là pour montrer que le PhD, là, sa connaissance est comme ça. Là. Il choisit un petit sujet, là, il sait presque tout, sur presque rien. Alors là, ils sont contents de ma formule. Je leur ai dit que je sais presque tout, sur presque rien. Donc, pour ceux qui voulaient les dévaloriser, disent qu'ils savent presque rien, là. Ben, en même temps, je leur ai dit, vous savez presque rien, sur presque tout, là. C'est ça, les généralistes. Donc, parce qu'il faut équilibrer les choses. Mais là, je dis, dans mon travail, je suis très apprécié sur ce côté-là, parce que je dis, et c'est ça la vérité. C'est-à-dire, moi, on m'amène un sujet, Ben, je vais le creuser en profondeur, je vais aller jusqu'à la limite. Parce que c'est un chercheur, c'est ce qu'il fait. Il doit ajouter à la science. Il doit faire avancer. Pour le faire avancer, il faut qu'il puisse aller à la limite. Et puis de là, les tirer à nouveau. Donc, je ne peux pas mentir, c'est ce que je suis. Mais par contre, je dis, je suis limité à un petit domaine très spécifique. Et vous, vous ratissez large, vous savez presque rien. Et les gens acceptent ça. Je dis, on est des presque rien. Regardez dans notre pédigree, on a un presque rien partout, là. Donc, on est égal. Et puis, les gens apprécient ça. Je dis, c'est ça la réalité. Quand vous avez affaire à des dossiers pointus qui vous cassent la tête, envoyez-moi sur la ligne de front. Je n'ai pas peur, j'aime l'inconnu. C'est pour ça que j'ai fait un PhD. Mais par contre, des affaires très générales, faites-les parce que vous êtes meilleur que moi. Et puis, je n'ai pas honte de le dire. Et puis là, je suis vraiment, vraiment apprécié comparativement à l'autre. Avec son PJ, là, c'était comme un marteau, là. Il tapait ça sur la tête des gens, là, et puis... Bon, ils l'ont mis à la porte aussi, hein. OK. Bon, alors là, c'est le rapport homme-femme. C'est pas moi, là, c'est le jeune artiste, là. C'est comme ça, il voit... C'est comme ça, il voit les choses. Donc, au Québec, regarde la femme, là, sous ses hauts talons, là. Et lui, là, qui envoie l'autre promener. Je sais pas ce qu'elle est en train de dire, là. C'est, on va fermer l'appareil là, au cas où c'est monsieur met à parler là. Bon, et puis l'autre là qui est complètement écrasé la tête de sexe. Donc, il faut dire que ça c'est une caricature, mais ça montre une chose que, disons, dans beaucoup de pays d'où viennent les immigrants, où c'est c'est l'inverse, là, le machiste qui est à l'honneur. Donc ici, c'est vraiment pas l'affaire à faire. Donc, si vous voulez être apprécié des Québécois, entrer en contact avec eux, il faut reconnaître que la femme est au moins égale à vous. Au moins. Et puis, il y a toutes les autres possibilités que je ne mentionnerai pas là, parce qu'il y a beaucoup de gars ici, là. Elle est au moins égale à l'homme. Si vous comprenez ça, parce que ça arrive souvent dans le milieu immigrant qui est en Haïti, quelqu'un qui va entrer en contact avec une famille, il frappe à la porte, c'est la femme, il dit où est le mari, il veut parler au mari. Donc, la personne qui est en avant là ne suffit pas là. Où est le mari? Non, mais ici, c'est pas ça. Et moi, j'ai mes copains qui font de la construction. Ils ont tous une amie. Parce que la construction, on pourrait, disons, concevoir, c'est une affaire d'homme. Mais quand il s'agit de signer des contrats de rénovation ou quoi que ce soit, c'est la femme qui décide malgré tout. C'est des gars de l'église de Saint-Hubert qui m'en parlent. C'est leur expérience. Même dans les questions de rénovation, de béton, de maison, où l'homme normalement devait avoir dernier mot, c'est la femme qui décide. Voilà, c'est un petit peu... Oui? Oui, c'est ça. Il y a un quelqu'un de Saint-Georges, de l'église de Saint-Georges. Bon, quand je suis allé prêcher là-bas, donc on a développé une certaine amitié. Puis, je lui ai parlé de notre projet, etc. Et puis, parler de quelques points, du rapport homme-femme. Gagne la main à la tête. Écoute, alors, j'ai vécu une expérience là. Ouh là là, il faut que tu en parles. Pour que les immigrants ne fassent pas cette erreur-là ici. Alors, le gars se mariait. Il a invité tous ses amis, disons, qui ne sont pas adventistes. C'est la première, parce que c'est l'une des rares occasions où on peut inviter des non-adventistes dans l'église adventiste. Parce que généralement, les gens sont réticents à venir à l'église. C'était l'occasion, il a invité tous ses amis. Alors, le pasteur, qui n'était pas un Québécois tous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois tous pasteurs. Donc, c'était quelqu'un qui venait de l'Amérique latine. Alors, il commence avec le texte de Philippiens. Femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur, vous êtes un sexe plus faible, etc. Là, il avait toute son histoire là-dessus. L'autre m'a dit, pendant toute la cérémonie, il avait la main comme ça. Là, il dit, il a gâté mon mariage. Parce que mais ma femme qui est dans ça là, c'est un mauvais mariage, j'ai une mauvaise ligne de miel au départ là. Parce que quand la femme n'est pas satisfaite là, dans un discours, là, les gars, vous savez quelque chose. Là. Déjà, la ligne de miel est compromise à moitié. Et puis là, tous les gars, le premier contact avec l'église adventiste, dans sa tête, c'était foutu. Ah bon, c'est ça notre église, c'est ça la Bible christianiste, que femme soumise à votre mari. Mais pourtant, il y a dans le même chapitre, là, homme soyez soumis à vos femmes comme étant, là, l'homme ne s'appartient pas. Il y a tout ça aussi là-dedans. Là. Mais sauf que pour ceux qui viennent de l'Amérique latine, là, les latinos, les haïtiens, les africains, etc., et pour bien d'autres peuples, ben, c'est sûr, on met toujours l'emphase sur la soumission de la femme. Puis le gars a fait le mariage sous ce thème-là. Comme ça. Femme, soyez soumise à votre mari, etc. Et puis un sexe plus faible, des affaires comme ça, là, avec beaucoup de condescendance. Puis la femme doit respecter ceci, cela. Oh, yes. Donc il m'a dit, écoute, Harold, il faut que tu en parles. Parce que donc, ce que j'ai vécu là, je ne veux pas que d'autres le vivent. Parce que ce n'est pas comme ça. C'était une occasion en or qu'on a ratée. Donc ces gens-là, on ne peut pas les retoucher à nouveau. Là. Je dis, si c'est ça votre message, là. Ils n'en veulent pas, c'est ça le message. Parce que la société est rendue à un autre point. Et il y a des versets qui sont en harmonie avec cette autre, là où se trouve la société. Mais l'Église, souvent, n'est pas capable de suivre. Oui? Et de ce côté-là, toutes les églises chrétiennes doivent faire leur mea culpa. Moi, j'avais un employé américain, un ingénieur qui travaillait dans mon équipe, là, j'étais à Nouveau-Brunswick. Il a raté son premier mariage à cause de ce point-là, relation homme-femme. Il est issu d'une famille chrétienne fondamentaliste, donc dans l'Ouest américain. Et puis, sa mère n'a jamais travaillé. Elle était pianiste, virtuose. Elle ne pouvait même pas lui donner des leçons de piano à l'extérieur de la maison. Le mari était vraiment là. Et puis, il avait des versets bibliques. Là. Il y a cette interprétation. Les protestants américains sont très forts de ce côté-là. Que la femme que Dieu veut, là, c'est une femme au foyer qui ne fait rien. Bah, comme une poupée là, qui attend son mari. Non. Et puis, il est venu au Québec pour faire sa maîtrise. Donc, il est tombé sur une Québécoise qui a tapé dans l'œil. Ben, ils n'ont pas discuté cette affaire-là. C'est un mariage, là. La Québécoise est épanouie. Elle a un métier. Elle compte l'exercer, sans goût. Et puis, elle ne demande pas de permission, là, pour aller sortir avec ses collègues de travail quand il y a 5 à 7 ou des choses comme ça. Là. Donc, c'était épouvantable. Le mariage a fini en catastrophe. Et puis, lui, il est allé chez les Mormons pour chercher une autre femme. Parce que, même s'il est adventiste, hein, parce qu'il dit que les Mormons savent comment entraîner les femmes là, pour être obéissantes. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Il est adventiste et je suis allé chercher une femme chez les Mormons parce que les Mormons savent entraîner les femmes pour être obéissantes. Et je me rappelle à un certain moment, même dans notre couple, on avait, disons, pas des discussions là, mais on des échanges de ce côté-là. Et puis, à un certain moment, Carole envisageait de rester à la maison, des choses comme ça, pensant qu'elle me ferait plaisir. Je lui ai dit non, moi, je ne suis pas de cette conception-là. Si tu veux rester à la maison, c'est pour toi. Sache que pour moi, je n'ai pas cette conception du rapport homme-femme. Pour moi, quand je vois la femme idéale dont la Bible parle, ce n'est pas celle que, disons, décrivent les évangélistes, les religions protestantes, parce que Si on analyse bien Proverbe 31, c'est ça? Mais c'est une femme qui achète des vaches et qui les revend. C'est donc ce qu'il veut dire là, c'est une femme d'affaires ça. Il achète des terrains et qui les revend. Il achète des vaches et qui les revend. J'ai dit, mais comment les gens peuvent partir de ce texte-là et puis dire que la femme est au foyer et puis de ne rien faire? Donc j'ai beaucoup de problèmes avec, disons, ce courant. Comment je vais dire, le puritain de l'Église. Et puis, d'après moi, là, c'est mon interprétation, ça a fait fuir beaucoup, disons, ça a éloigné beaucoup les gens du christianisme en tant que tel. Parce que c'est important que quand on va prêcher l'évangile, quand on va entrer en contact avec les gens, de se sortir un petit peu de cette tradition protestante et puis qu'on a toujours tendance à faire passer comme étant la vérité de la Bible. Des fois, ça peut être très loin, ça peut être même à l'opposé. Il faut voir que du temps de Jésus, ceux qui parlaient au nom de la Bible, au nom de Dieu, n'étaient pas toujours dans la bonne compréhension. Là. Et dans nos églises, je ne sais pas si les églises adventistes font ça, mais avec mon ami qui était protestant fondamentaliste avant de devenir adventiste, c'était quelque chose de très, très biaisé, puis ça a coûté son mariage. On va aller à l'autre point. Là, on entre dans le professionnalisme, qui est important, là, parce que la question de retard, je me rappelle la première fois que j'en ai parlé, c'était au Désin à Montréal, et puis Janine, tu étais là, si je m'en souviens bien, quand j'avais remplacé Pasteur Latchman, et puis j'avais posé la question, j'ai demandé à chaque culture qui était là, parce qu'il y avait tout le monde, de trouver dans chacune de vos cultures un point qu'il faudrait améliorer pour être plus efficace dans l'évangélisation ici. Les Latinos se sont regardés, ils ont souri, il n'y a personne qui a rien dit. Et puis, non, personne n'a rien amélioré là. Non, je vous donne l'occasion là. Vous êtes d'une autre culture, vous arrivez ici, ben écoute, il y a quelque chose à améliorer quand même là. Bon, moi, comme personne ne vous laisse lever, alors j'ai dit, bon, moi je suis d'origine haïtienne quand même là, même si j'ai vécu longtemps au Québec. Alors, il y a la question du retard. Alors, j'ai failli me faire fusiller. Parce que les Haïtiens, non, c'est une des ça. Oh, ya, j'étais pas aimé cette matinée-là. Quand Pasteur Lachman est revenu, probablement qu'il avait un thermomètre, là, la température est montée dans la salle. Ils sentaient ça, là, j'étais survolté. Parce que j'avais posé une question. Et puis, je dis, en tant que Haïtien, je peux parler. Mais je n'ai pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça. Donc, si je dis les affaires code culturel, là, on peut en parler avec des tonnes, mais c'est extrêmement important. Parce que qu'on ne s'avise pas d'aller évangéliser quelqu'un d'autre si nous-mêmes, on n'est pas prêt à reconnaître, disons, qu'il y a des ajustements. Et dans la question, ce qui est bien dans la question du retard, c'est qu'il n'y a pas de blâme à faire à aucune culture. Et là, Benjamin m'avait passé un graphique. Alors, je n'ai pas eu le temps là, de terminer parce que je travaille comme tout le monde. Là. Et puis, je n'ai pas eu le temps de montrer le graphique qui explique toutes les conceptions. Là. Donc, au moins, je vais parler, disons, de l'effet du retard. Parce que le retard est quelque chose de fondamental dans le rapport. Et c'est notre ami Guy qui nous disait, si il y a une première fois là, quelques minutes, c'est excusé. Mais quand ça se répète là, il n'y a plus d'excuses. Donc à ce moment-là, la personne te met, le Québécois te met dans une case à part, là, je ne peux pas fonctionner avec toi. C'est tout simple comme ça. Il y a une incompatibilité. Donc le retard, là, c'est des différents peuples, là, différents groupes. Comme vous voyez, il y a Pise, là, j'ai demandé aux jeunes là, qui étudient toutes sortes de matières de me dire ce que c'est. Là. Bon, on n'a pas encore trouvé. Mais c'est un peuple qui existe. Merci Benjamin. Alors, j'ai traduit ça par délai de grâce. C'est à l'intérieur, si tu as à l'intérieur de cet écart-là, c'est acceptable. Donc, si tu as un rendez-vous avec un YAP, là, si tu arrives 2 heures en retard, pas de problème. C'est dans le Pacifique. Probablement, les gens se promènent en canot, non, j'imagine. Donc, c'est des petites îles là, ils se promènent en canot. Parce que, 2 heures, le courant était fort, ou bien il y avait des grosses vagues. ça peut passer comme ça. 2 heures. Les Latinos, une demi-heure. Les Noirs-Américains, regardez ça là. 5 minutes. 5 minutes, regarde l'heure. Et puis, ma femme est québécoise, et 5 minutes, ma femme voudrait qu'on soit toujours en avance. Malgré si c'est elle qui est en retard, par exemple. Il ne faut pas que je lui dise ça. Non, 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 non. Ça c'est un autre chapitre, ça. On ne parle pas de code anti-sexe, là. Parce que là, c'est un autre monde, là. Si je ne les appelle homme-femme, là, on ne se comprend plus, là. Oui, c'est ça, là. Mais par contre, si c'est moi et que j'ai l'impression que je vais être en retard, si elle a l'impression que je vais être en retard, en tout cas, là, je mérite toute une thérapie. Comme moi, là, j'oublie presque tout. Donc, à ce moment-là, j'oublie la thérapie, je continue ma vie. Bah, c'est l'avantage que j'ai dans la vie, là. J'avance, là, on me dit des affaires, bon, j'écoute. Oh, mais je ne m'ai jamais rendu québécois, il m'a fait ça. OK. Bon, au-delà, maintenant, ça, c'est des grâces. Maintenant, à un certain moment, le retard va amener une tension. Pour le Yab, là, même si tu as des vagues, etc., là, au-delà de 3 heures, là, non, là, il va être fâché. Il va être fâché. Pour le latino, 1 heure. Il reste 10 minutes? Oh boy. Ah, mais on va continuer l'autre partie après, là. Non. Là, OK. Le nord-américain, 15 minutes, là. Ils vont faire des remarques, là, et puis un petit peu musclé, là. Eh bien, l'hostilité, là, les Haïtiens n'ont pas ici, là. C'est ça. Parce que là, bon, quand on fait notre camp meeting, là, on les invite plus. Tout ça vient de là, hein, des affaires comme ça, là. C'est l'hostilité, là. Hostilité, là, on ne veut pas travailler avec les Haïtiens, on ne veut pas travailler avec quel groupe, on ne veut pas travailler avec les Anglais, on ne veut pas travailler. Le retard peut être bien à la base. Bon, il y a d'autres éléments, là. Et c'est, ici, là, il n'y a pas d'affaire de chrétien ou non, là. C'est dans le subconscient, ça, là. La personne réagit, là, on se dit, il va prier après, là, mais demain, il fait la même chose. Oh oui. Ça va recommencer. OK, on avance. Bon, là, on arrive dans l'intimité, l'espace privé. Et ce qu'on arrive à... Pour nous, immigrants, on a énormément de choses à apprendre parce que le Québécois est très privé. Il veut protéger son espace et si on veut établir un rapport, disons, de longue durée, il faut pouvoir faire la différence entre la politesse sociale et l'amitié. C'est l'amitié, c'est-à-dire que la personne t'invite dans son espace privé. Autrement, là, il y a un mur blindé, là. Tu n'entres pas. Et avec nous, on a quelqu'un qui a fait une thèse en psychologie. Il nous a dit qu'il y a une bulle autour de chaque personne. Pour les Québécois, c'est l'espace personnel entre 2 personnes d'environ 3 pieds, 90 centimètres, là. Donc, plus loin que ça, là, la personne recule. Et je pense que c'est Sabrina qui avait vu une vidéo, là, dans son cours, montrait différentes cultures, là, et puis, il y a certainement 2 personnes, là, il faisait le tour de la salle. Parce qu'il y a un qui avance, l'autre recule. Mais avance, l'autre recule. Donc, ils ont fait le tour de la salle. Parce que l'intimité, espace privé. Et dans l'intimité, espace privé, il y a des éléments que nous, Haïtiens ou bien immigrants, ne peut pas entrer dans cet espace-là, mais qui, pour les Québécois, surtout dans cet espace-là. Ça, je vous parle d'expérience, là. Se présenter chez quelqu'un à l'heure des repas. Moi, je ne savais pas que ça faisait partie de l'intimité de la personne, là. Un repas, c'est un repas. Mais. Je l'ai appris. Quand la personne mange un Québécois, là, ça fait partie de son intimité. Là. Donc, quand vous allez frapper au port, l'heure, là, vérifiez ça. Là. À l'heure du repas, vous ne vous présentez pas chez un Québécois. Vous êtes dans son espace privé, dans son intimité. Puis l'heure à laquelle vous appelez les gens aussi. Oui? Non, c'est vrai, ça dérange énormément. Ensuite, appeler la personne très tôt le matin, très tard. Moi, ma famille fait régulièrement ça. Je ne sais pas s'ils savent que le jour où je n'existe plus, là. Mais c'est très tôt, très tard. Et puis, j'ai un ami à Montréal qui me doit de l'argent. Samedi dernier, il me réveille, là, pour me dire qu'il m'apprécie beaucoup, parce que je suis patient avec lui. Puis ma femme m'a dit, lui, attends. Au moins, s'il voulait dire qu'il veut payer, là, s'il veut rembourser. Mais il appelle, il nous réveille pour vous dire qu'il apprécie notre patience. Je dis, il est à Montréal. Il est à Montréal. Il ne peut pas attendre de 8h ou 9h, là. Avant 7h, il appelle, il apprécie notre patience. Parce que... Oh là là là, et lui, c'est lui, il était à Montréal, puis ma famille fait ça à bout de bras, là. Il m'appelle n'importe quelle heure. Là. En Haïti, ça ne dérange pas. Mais ici, ça dérange énormément, il faut appeler à des heures convenables. Ensuite, dans les rapports, ne pas paraître envahissant avec un Québécois, il faut aller mollo, ne pas envahir la personne, ne pas toucher trop rapidement. Parce qu'on a des difficultés avec ça. Bon, c'est pas que c'est mauvais, là, mais chez nous, c'est de la chaleur humaine. Là. On se parle, on se touche, etc. Là. Donc, j'avais un ami, quand il discutait avec quelqu'un, pour être sûr qu'il fait passer son tour, là, il tient les deux bras de l'autre. Et puis, ça marche, l'autre arrête de parler. Hein. C'est comme si pour parler, il faut faire des gestes. C'était à l'université, ça. Il tient les deux bras, et puis les autres ne parlent pas, et puis ils parlent. Ensuite, on va aller à famille. Famille. Ah non, c'est famille. Famille. Oh, non. C'est, il faut aller retourner en arrière. Famille. Non. C'est vrai. Donc, il n'a pas envoyé le slide. Ok, c'est pas. On va dire un mot parce que je n'avais rien à. C'est hier avec Nicolas. On a discuté ça en 5 minutes, là. Et puis, alors, ces deux points de vue-là, si vous n'êtes pas d'accord, c'est lui qu'il faut lapider. OK. Il m'a dit que normalement, ce qui sous-tend dans l'esprit de Québécois, c'est le principe d'équité dans la famille. Donc, l'un n'exploite pas l'autre, là. Ce que je mets mes billes, là, ce que je mets, j'en retire, etc. Là, pas plus, pas moins. On voit ça dans les échanges de cadeaux. Je me rappelle quand on faisait l'échange de cadeaux dans la famille de ma femme, il fallait une première semaine, voter sur le montant du cadeau que tout le monde doit acheter à tout le monde. Là. Donc cette année, disons une année, là, c'était 30$, tout le monde devait recevoir un cadeau de 30$. Alors tu piges, et là, alors tu vas acheter un cadeau de 30$ à cette personne-là. Toi, tu fais un cadeau de 30$ aussi, là, 30-30. Il n'y a personne qui. Je me rappelle. Il y a une année où ma belle-sœur m'avait pigé et puis elle m'a donné le numéro du catalogue pour le cadeau. Elle est allée, à l'époque, il y a distribution consommateur, elle est allée dans le catalogue, l'a choisi. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pris? Ben, tu étais là, tu as vu le catalogue, tu me dis, prends-le toi-même. Pourquoi tu m'amènes l'information pour que j'aille te le chercher? Puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit au reste de la famille, non, moi je ne participe plus à ça. C'est fini là parce que. Il y a une limite à vouloir s'intégrer là, mais moi je trouve que ça c'est plus un cadeau. C'est quand même de la niaiserie là. Tu es allé là-bas, tu l'as vu, tu l'as noté, maintenant tu me demandes d'aller chercher pour toi. Oh ben ça n'a pas de sens. Donc non, ça j'ai pas participé, ils ne m'en veulent pas non plus. Puis je pense que c'est arrêté aussi là, ils ont compris que ça n'avait pas de sens là. Et puis, de temps en temps, je peux faire un cadeau à quelqu'un. Comme il y en a un qui était fonctionnaire, il se rendait compte qu'il n'avançait pas dans sa carrière, peut-être probablement parce qu'il ne parlait pas anglais. Donc, j'ai trouvé un bon livre en anglais, je lui ai fait cadeau, il était extrêmement content. Mais c'était un cadeau, bon, quand il en a besoin. Des fois, quand je vais dans mes nombreux voyages, je vais trouver des hiéroglyphes des fois, là, et puis je vais amener des cadeaux comme ça. Là. Donc, les gens apprécient. Mais ce n'est pas dans le contexte, là. Tu me donnes un cadeau de 30$ et puis il faut que ce soit le même cadeau qu'il veut. Là. Si tu achètes autre chose, il est fâché. Hein. Je lui dis, mais c'est quoi là, cette affaire-là? Bon. Rapport à la loi. Bon, voilà, c'est un Québécois qui a. Il dit, mais les travaux sont terminés, il me reste donc 30 jours pour publier mon hypothèque légale. Il a dit, il suit exactement ses affaires, sa maison est construite, il attend 30 jours pour publier avant de faire des affaires. Un haïtien, là, la maison n'est pas encore construite, il habite là-dedans. Il a construit une chambre, il habite là-dedans, il construit l'autre chambre à côté. Et puis, des fois, la maison n'est jamais finie. Ah, mais on fonctionne comme ça. Mais Québécois, là, c'est que c'est prêt, là, c'est construit, mais il attend les règlements, il suit, etc. Bon, ça c'est bien, mais des fois, c'est exagéré un peu. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé au jeu aquatique de Montréal. Au monde aquatique. Donc, il y a une loi qui dit que dans une piscine de Montréal, s'il y a des gens qui doivent se baigner, ils doivent absolument avoir un mètre nageur, là, comme ça s'appelle, un sauveteur, etc. Mais le sauveteur avait 17 ans. Puis c'était des mondiaux aquatiques avec des champions du monde là, qui arrivaient là, et puis ils avaient leur équipe. Alors tous les journalistes sont là, ils disent, on va voir ce que les Québécois vont faire avec cette loi-là. Alors les gens disent au maire de Montréal, oui, mais enlevez, au moins abroger la loi en attendant, là, parce qu'on va se faire rire de nous. Là. Donc quand même, les champions du monde sont là, et puis un bonhomme de 17 ans pour le surveiller. Et puis, non, le maire a dit, la loi, c'est la loi. Puis les champions du monde étaient à la piscine avec leur équipe, puis le bonhomme de 17 ans était là, il ronflait. Donc ça, c'est le côté exagéré, là. Mais ne vous faites pas de soucis, des fois vous allez rencontrer des choses comme ça dans les systèmes, et ne dites pas que c'est de la mauvaise foi, ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai 22 ans au Canada, j'ai voulu suivre un cours de droit des affaires dernièrement, j'ai été refusé mon inscription parce qu'on m'a demandé un document qui s'appelait, c'est l'acceptation du Québec, c'est-à-dire quand un immigrant arrive là, avant qu'il ait sa résidence. Mais dans la loi de l'université, là, un immigrant doit avoir... si tu es canadien, tu présentes ton acte de naissance, mais si tu n'es pas né au Canada, tu avais ce papier-là d'acceptation. Mais moi, quand même, comme je suis devenu résident, je suis devenu citoyen canadien, j'ai 3 enfants, j'ai une entreprise, j'enseigne, je fais tout. Je dis, je réside ici pour moi. Là. Il y a assez de preuves que je réside pour ça. J'ai acheté une maison, j'ai tout ça. Non, la dame a dit, monsieur, c'est écrit, vous n'êtes pas né ici, il faut ce papier-là. Je dis, madame, ce papier-là, la loi dit ça, c'est pour prouver que je suis résident, mais vous avez toutes les preuves que je suis résident. Elle dit, monsieur, je ne peux rien faire. Vous n'avez pas le papier, vous ne pouvez pas vous inscrire. Et j'ai raté cette session-là. Il a fallu faire d'autres démarches. Je suis obligé d'aller devant un officier pour assermenter, là, pour prêter serment, disant que je suis résident des affaires comme ça. Ça, c'est l'application de la loi ici, et il faut vivre avec ça. Bon. Et le dernier point, le non moindre, c'est l'identité. L'identité, on a glissé un mot tantôt. Vous voyez le drapeau canadien, québécois, en avant, le drapeau canadien en arrière. Donc, on monte un, on cache l'autre, etc. La commission Bouchard-Taylor. C'est pas évident. Donc, ce qu'il faut comprendre en tant qu'immigrant, c'est que l'identité québécoise est en chantier, est en définition, c'est faire quelque chose qui est achevé. Il y a un malaise là-dessus. Donc, si vous montrez aux Québécois que vous comprenez le malaise identitaire, déjà vous avez fait un bon bout de chemin. Ne prenez pas position. N'allez pas dire aux Québécois que c'est vous qui dirigez le Canada là, pendant les 40 dernières années, tous les premiers ministres étaient Québécois, vous n'avez pas raison de chialer là, que vous êtes maître chez vous déjà là. Le commissaire, d'ailleurs, on fait l'erreur. Ben, eux, ils ont fait un constat objectif, mais ils auraient pu, disons, le formuler autrement. Vous voyez, le rapport est pourfendu, j'ai apporté ici là, c'est Parizeau qui disait c'est bon pour la filière 13. Filière 13, là, scrappé, là, on n'en veut pas. Même si c'est un très bon rapport, mais le rapport ne reconnaît pas qu'on est fragile. Donc, on est encore menacé, etc., là, que pour nous, on a besoin d'être renforcés, et que les migrants doivent venir nous renforcer. Alors, est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'être renforcés? Les commissaires disent, mais non, vous êtes maître chez vous, déjà. Mais ça ne passe pas. Et si vous allez faire comprendre aux Québécois qu'ils chialent pour rien, Il n'a pas raison d'avoir peur, il est maître chez lui, mais il s'est dépassé. Donc, pour lui, vous ne comprenez pas. Et puis, ce que Parizeau a dit dans l'article, là, ils disent que les commissaires ne comprennent pas la vie. C'est deux hommes qui ont plus que 70 ans. S'ils n'ont pas encore compris la vie, quand est-ce qu'ils vont le comprendre? Pour lui, là, ils ne comprennent pas la vie s'ils ne réalisent pas que le Québécois a raison d'avoir peur, qu'il a besoin de toutes sortes de choses pour le protéger encore. Donc, c'est à peu près ça. Quand vous entrez en contact, reconnaissez ce malaise-là. Il existe, ils ont peur. Pourquoi? On ne sait pas. Mais il y en a qui se sont libérés, mais une grande majorité encore reste dans ce malaise. Et il faut être conscient, puis ne pas rentrer à aller faire des déclarations qui peuvent nuire à l'amitié en tant que telle. Bon, voilà.
Si je peux permettre, je vais faire un retour avec le début de ta présentation. L'un des fameux tabous, c'est juste justement la politique.
C'est ça.
Ça rejoint cette question d'identité.
C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Okay. Donc, il faut Fred. Oui? C'est juste différent. Mais simplement, pour rejoindre l'autre, il faut pouvoir, comme l'apôtre Paul dit, avec grec, on est grec, avec juif, on est juif. Et je sais que dans certaines communautés, il y a beaucoup d'efforts à faire pour vouloir être juif avec les juifs, grec avec les grecs, parce que c'est dans tous les milieux, il y en a qui croient que notre façon de voir, c'est la bonne, c'est la meilleure, et puis elle est vissée dans la Bible. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Toutes les cultures... sont équivalentes, je pourrais dire, mais quand on veut rejoindre quelqu'un, il faut aller sur son terrain. Donc, or, si on veut évangéliser les Québécois, à l'exemple de l'apôtre Paul, ben, il faut aller sur le terrain. Et ce que Josiane a fait, c'était parfait. Et si on est capable de le faire, je crois que Dieu va bénir notre initiative d'évangélisation. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci de votre écoute.